Merci Seigneur pour ta sagesse, pour tes enseignements qui sont d'une incroyable profondeur, qui ont transformé des vies, transformé des nations, transformé des empires. Te prions Seigneur que l'empire de notre cœur puisse être transformé par tes enseignements, par ta sagesse, que nous puissions ensemble méditer sur les façons que tu as eues de te révéler, qui préparaient les façons qui allaient suivre. Dans le désert, quand le peuple d'Israël était avec Moïse, tu leur as enseigné comment venir à toi à travers le tabernacle. Et à travers le tabernacle, Seigneur, c'était ton Fils Jésus-Christ que tu annonçais, que tu préparais déjà à travers des illustrations concrètes, pratiques et simples. Donne-nous de méditer sur le tabernacle, de méditer sur comment vivre avec toi, comment être accueilli, comment marcher dans ta présence, comment être purifié, transformé, et vraiment vivre dans la joie d'être avec toi, Seigneur Jésus, dans la joie d'être avec ton Père Céleste. Amen. Alors, on va mettre la première image. Le tabernacle. Apprendre à vivre avec Dieu. Depuis les premiers jours de la création, le but de Dieu, c'est de nous enseigner comment vivre avec lui, comment le suivre. Les êtres humains, on a tendance à se faire des idoles. Les idoles, on va les mettre dans des lieux, en général, on essaye de mettre dans le temps ancien, au temps d'Abraham, même jusqu'au temps de Moïse, on les mettait sur des lieux élevés, ces idoles, parce qu'on se disait, c'est le lieu le plus élevé sur la terre, donc c'est le plus honoré, c'est ce qui est le plus honoré, donc on va mettre nos dieux sur des endroits précis, et on va venir adorer ces dieux. Ce qui veut dire qu'on croyait que les dieux étaient limités à un endroit dans le monde, à un espace. Ils étaient limités à une nation. Et Dieu voulait enseigner depuis les premiers temps que son but, c'est pas qu'on lui fasse des superbes bâtiments, qu'on lui fasse un lieu spécifique, parce que Dieu est partout. C'est pour ça qu'il a préparé son peuple. Abraham, il ne lui a pas dit « Tu vas me faire un autel et un temple à tel endroit. » Il lui a dit « Pars et va où je te dirai. » Ce que Dieu veut, c'est qu'on le suive par la foi. Parce que quand Abraham a entendu « Pars », il ne savait pas où. Il savait juste qu'il devait dire « Oui » à Dieu et lui dire « Je vais continuer à écouter ta voix. » C'est exactement le but de Dieu, de nous parler, que nous puissions l'écouter et suivre sa voix. Quand Abraham a suivi Dieu, il a eu un fils, Isaac, qui a eu un fils, Jacob. Et ensuite, ça a été les 12 tribus d'Israël qui sont parties en Égypte, qui, comme nous l'avons vu la semaine dernière, dans le début du livre d'Exode, ont été libérées d'un homme qui était un tyran, un roi, qui était le pharaon. Et Dieu a montré qu'il était plus puissant que ce plus grand roi de l'époque, qu'il était plus puissant que son armée, qu'il était plus puissant que ses devins, que ses prêtres, que tout ça. Et maintenant, Dieu veut enseigner à son peuple des éléments clés. Il leur enseignera d'abord qu'il est un Dieu saint et que ce que veut Dieu, c'est pas qu'on lui offre de la nourriture, c'est pas qu'on fasse des petites choses pour lui, qu'on sacrifie un fils, non. Comme c'était le cas à l'époque. Ce que Dieu veut, c'est qu'on agisse avec droiture, avec justice, avec vérité, qu'on apprenne à aimer notre prochain. C'est pour ça qu'il donnera les 10 commandements, les tables de la loi, dont on entendra parler dans ce texte, dans cette présentation. Les tables de la loi, c'est des enseignements qui étaient révolutionnaires. Révolutionnaires pour plusieurs raisons. D'abord parce que Dieu ne voulait pas qu'on fasse une image de lui. Il ne voulait pas qu'on fasse un temple et une belle statue en or. Il s'en fiche de Dieu de ça. Ensuite, il ne voulait pas que les gens se limitent à faire des choses pour lui. Il voulait que le fait qu'on accepte Yahvé, Dieu, ce Dieu qui se révélait à Moïse dans nos vies, ça se traduise dans notre relation avec notre prochain. Ce que Dieu voulait, c'est de l'amour. L'amour pour Dieu, pour sa création, et pour notre prochain. Si Dieu est créateur, on est appelé à aimer cette création. Si Dieu est créateur de l'humanité, on est appelé à aimer notre prochain. Ça veut dire qu'on ne s'irrite pas et qu'on ne se met pas en colère et qu'on n'insulte pas, qu'on ne s'accuse pas mutuellement. Des fois, on va dire « oui, c'est lui qui a tort, non, c'est elle qui a tort ». Ce n'est pas à la gloire de Dieu, ça. Et Dieu va enseigner aussi un élément qui est révolutionnaire. Cet élément révolutionnaire, c'est qu'il va enseigner le sabbat. Il va dire « vous allez vous reposer une fois tous les 7 jours ». Et j'aimerais vous dire qu'en tant que chrétien, nous avons à faire attention à ne pas croire que c'est pour le passé. Jésus n'a jamais dit que ce n'était que pour le passé. Il a dit qu'il ne faut pas que ça devienne un légalisme, on doit faire à se limiter. Mais on est appelé à se reposer. Pourquoi ? Pour se rappeler qu'on n'est pas appelé à agir tout le temps. On est appelé aussi à se réjouir de ce que Dieu nous donne, de l'air qu'il nous donne, de la création qu'il nous donne. Et en se reposant, Dieu va dire dans les 10 commandements, ceux qui sont vos serviteurs doivent se reposer aussi. Ça, c'était révolutionnaire. Ça, c'était une révolution immense. Et j'aimerais vous dire que c'est encore une révolution pour beaucoup, même des gens chrétiens. Je me rappelle, on était en Ouganda et on avait un monsieur qui était notre responsable, qui nous louait la maison, une très grande, très jolie maison. Les loyers en Ouganda, la maison que vous pouvez avoir ici, vous divisez par 4 le loyer et vous avez la même maison en Ouganda. Donc, on pouvait, par la grâce de Dieu, avoir vraiment une jolie maison. Et il y avait une réparation à faire. Et une fois, on voit qu'il y a des peintres qui arrivent toquer à la porte le dimanche matin, avant qu'on parte à l'église, et qui nous disent « Bonjour, on a été envoyé par le responsable de la maison pour repeindre la façade. » Ah, ils ont eu le choc de leur vie. Je leur ai dit « Je vous remercie, mais j'aimerais vous dire une chose. Vous ne ferez jamais de travail sur ma propriété le dimanche. » Je le dis avec simplicité, si je dois appeler votre responsable, je vais le faire. Ce n'est pas votre faute, mais s'il vous plaît, vous pouvez revenir tous les jours de la semaine, mais le dimanche, il n'est pas question que vous travailliez sur ma maison. Ils ont dit, mais ils ont appelé le chef. Le chef m'a donné le téléphone, il m'a parlé. Il était un responsable dans le gouvernement. Et en Ouganda, il parle et je lui dis, je suis désolé monsieur, je suis chrétien. Le dimanche, on ne travaille pas chez moi et je ne veux pas faire travailler quelqu'un pour moi. C'est un commandement que Dieu me donne. Ah, il était choqué. Et lui-même se disait chrétien. Mais c'est une des règles. Non seulement on est appelé à se reposer, on est appelé à laisser se reposer les personnes qui travaillent pour nous. Et ça, c'était révolutionnaire. Parce que là, Dieu commençait à enseigner à son peuple que non seulement il voulait qu'on se repose, mais il voulait qu'on n'asservisse pas, qu'on ne fasse pas des esclaves des autres. Ça, c'était quelque chose qui était une immense révolution pour l'époque. L'époque considérait qu'il y avait des classes. Il y avait la classe royale, la classe des nobles, ensuite une classe un peu en dessous, des artisans. Après, il y avait une classe des esclaves, par exemple. Il y avait la classe des guerriers. Vous retrouvez ça de manière très claire, par exemple, dans les religions de type hindou, où vous allez avoir la société divisée par classe, avec des privilèges plus ou moins élevés. Dans l'Égypte, par exemple, il y avait la classe des prêtres. C'était bien d'être prêtre, parce que quand on était prêtre, on avait une terre qui était à nous, on recevait de l'argent du roi, et on était sûr de ne jamais rien manquer, de manquer de rien. Donc les prêtres, en général à l'époque, ils ne manquaient de rien. Les prêtres, au temps d'Israël, Jésus, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jésus, a dit non, je ne veux pas de classe. Comment il a enseigné cela ? D'abord, il a enseigné qu'on devait libérer, si quelqu'un était notre serviteur pendant un temps, il devait être libéré au bout d'un certain temps. Que si quelqu'un dans notre famille devenait esclave ou serviteur, tous les gens ou des personnes de sa famille qui le pouvaient devaient libérer cette personne. C'est tellement vrai que dans le peuple juif, ils l'ont fait au Moyen-Âge. Il y a une lettre d'un rabbin qui a été pris comme esclave après qu'une armée de barbares ou une armée étrangère ait pris, emprisonné des gens pour en faire des esclaves. Et il leur écrit « Mes frères, mes sœurs, mes amis, la rançon que ce roi demande pour moi est trop élevée. Ne la payez pas, je vous en supplie, sinon il y en a d'autres qui vont être asservis et ils vont se servir de ces règles que nous avons dans notre peuple pour nous soutirer de l'argent. » Un rabbin qui écrit au Moyen-Âge, « Ne payez pas ma rançon, c'est vraiment trop, je trouve que ce n'est pas juste. » Pourquoi ? Parce que c'était une règle. Et je dirais, le christianisme, on devrait se rappeler de ces enseignements. Personne parmi nous ne devrait être esclave. Personne ne devrait être un esclave. Une autre chose que Dieu a fait, il y avait une classe un peu privilégiée, c'était les prêtres. Ils avaient de la terre, par exemple en Égypte, c'était les plus aisés, parce que eux, leur terre leur appartenait, contrairement aux gens du peuple. Et ils pouvaient vivre vraiment grassement. Les gens devaient leur donner des choses. En Israël, Dieu va faire quelque chose. Il ne veut pas qu'il y ait des gens supérieurs aux autres. Il ne veut pas qu'il y ait cette structure où il y a des chefs et où il y a des esclaves. Comment il va faire? Il va dire, il va y avoir des prêtres, il va y avoir des gens qui sont là pour intercéder, pour vous aider, pour vous enseigner comment Dieu veut que vous viviez, que vous aimiez votre prochain. Mais il va y avoir un détail. Les prêtres, ils ne vont pas avoir de terre. Ils vont dépendre de vos offrandes, ils vont devoir vous servir comme des serviteurs et non plus comme des maîtres. C'est pour ça que dans la foi juive, les prêtres vont commencer à être appelés serviteurs et dans le christianisme, on appellera les gens qui sont responsables d'enseigner, de prêcher, des serviteurs de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas appelés à être des maîtres, mais d'abord des serviteurs. Et les lévites qui seront ces serviteurs, dont les prêtres font partie, ils n'ont rien. Ils n'ont pas une seule terre. Ils n'ont pas un seul champ qui leur appartienne. Dieu leur dit, cette tribu n'a aucun champ. Elle dépend des autres tribus. Ce qui fait que les prêtres devaient faire leur tâche bien. Qu'est-ce qui se passait, à votre avis, si les lévites commençaient à dire, nous, on a envie de se reposer maintenant. On est prêtres. On va se détendre tranquillement. On n'a plus envie d'enseigner les autres. Plus envie d'intercéder pour les autres, de les bénir et d'être représentant de Dieu auprès d'eux. Qu'est-ce qui allait se passer pour les Lévites? Plus à manger. Ils ne pourraient plus vivre. Concrètement, ça fait que d'un côté, ils avaient une certaine autorité spirituelle, de l'autre côté, c'était les plus démunis de tout Israël. Vous voyez comment Dieu essayait de garder cet équilibre pour qu'il n'y ait personne qui joue au chef? C'était une société où il voulait qu'il y ait une égalité face à lui. Certaines sociétés modernes ont essayé de développer cette égalité en enlevant Dieu. Vous savez ce que ça donne? Les communistes ont essayé cette approche. Et il y a des choses belles dans le communisme, un désir de ne pas asservir l'autre. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui disait « Le capitalisme, c'est l'asservissement de l'homme par l'homme. » Vous savez ce que c'est le communisme? C'est l'inverse. Il y a toujours un qui va asservir l'autre. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur aux êtres humains vont se mettre les uns supérieurs aux autres. C'est ce qui se passe, vous voyez comment. Il y a eu ensuite des structures comme par exemple, il fallait faire partie du parti communiste. Et si on fait partie du parti communiste, c'est la bourgeoisie, c'est l'aristocratie, c'est finalement ceux qui vont dominer les autres. Les êtres humains, tant qu'on ne reconnaît pas une autorité spirituelle, et il y a des autorités spirituelles, même les gens athées, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir des voyants qui, semble-t-il, ont un contact avec le monde spirituel. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte, en France, il y a plus de 10 000 voyantes ou voyants. Rappelez-vous que les gens même qui se disent athées croient en quelque chose et se rendent compte qu'il y a un monde spirituel. Mais, je vais vous dire, les voyants, c'est des gens qui vont vous dire il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de Dieu tout-puissant. Parce que s'il y a un Dieu tout-puissant, ces voyants doivent être soumis à ce Dieu. Et les voyants font partie des gens qui croient qu'on peut s'amuser avec le monde spirituel. Non, Dieu va montrer à son peuple qu'il y a un monde spirituel, qu'il y a une façon d'entrer en relation avec ce monde spirituel, avec celui qui est le tout-puissant dans ce monde, qui est le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Israël. Et la pédagogie qu'il va utiliser, ça va être le tabernacle. Nous allons commencer à voir comment cela va fonctionner. Donc, d'abord, est-ce que tu pourrais passer à l'étape suivante, le graphique suivant? Quelle taille ça faisait le tabernacle? Des repères connus, un terrain de football. Alors les terrains de football n'ont pas une dimension fixe, sauf pour les championnats internationaux. Ou au niveau des championnats, je dirais officiels probablement aussi, maintenant. 105 mètres sur 68. La dimension du parvis où était construit le tabernacle, c'était à peu près un quart de terrain de football. Vous divisez en deux, vous redivisez en deux. Dans ce parvis, vous aviez ensuite un autel des sacrifices, qui, on le verra, avait à peu près 2 mètres sur 2 mètres, et un tabernacle, qui faisait 5 mètres sur 15 mètres de long. Ça veut dire que c'était comme 3 carrés de 5 mètres sur 5 mètres. Les deux premiers, c'était pour ce qu'on appellera le saint des saints, le lieu saint. Et le dernier carré, c'est ce qu'on appellera soit le lieu très saint, soit le saint des saints. En hébreu, quand on veut vraiment dire que quelque chose est très bon, on dira dans la langue hébraïque, c'est bon bon. Quand on dit que Dieu est très saint, on va dire qu'il est saint saint. Vous vous rappelez le chant qui est chanté d'ailleurs dans Isaïe, qui dit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Vous pourriez le traduire en français « Très, très saint ». Ça serait le même sens. On répète le même mot pour dire que c'est extrêmement vrai. Quand quelque chose est très bon, ça sera la langue hébraïque dira « c'est bon, bon ». Donc, quand vous avez les anges qui disent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur », ça veut dire qu'il est très saint. Ils ne sont pas en train de se répéter, ils sont en train de souligner la sainteté de Dieu. Et là, c'est le lieu saint, saint, donc très saint. Un carré. Alors, j'ai regardé la salle aujourd'hui. Vous voyez la salle où on est ? Il y a des poutres ici. C'est fait de 3 carrés, de 4 mètres sur 4 mètres. Ça fait 4 mètres de large, ensuite 4 mètres pour le premier carré, 4 mètres pour le deuxième, 4 mètres pour le troisième. C'est quasiment la taille du tabernacle. D'accord ? Le lieu très saint, c'est à peu près cette taille-là. Vous rajoutez un mètre de long, un mètre de large. Le lieu saint, c'est à peu près l'équivalent. La taille de ce sanctuaire, de ce tabernacle, c'est pour un peuple qui fait... Vous avez une idée combien de personnes en Israël sont venues dans le désert ? Plusieurs centaines de milliers de personnes. Plusieurs centaines de milliers de personnes. Est-ce que vous pensez que tout le monde peut rentrer dans un tabernacle de cette taille ? Non. En fait, c'était seulement pour les prêtres. Et cet endroit-là, le lieu très saint, c'était seulement pour le grand prêtre qui venait une fois par an. Alors nous allons commencer à voir maintenant les détails par rapport à toute cette structure. Pourquoi Dieu l'a faite et comment, au niveau pédagogique, on peut apprendre ? On peut passer au graphique suivant, à l'image suivante ? D'abord, le but de Dieu, le rôle du tabernacle, c'était enseigner au peuple d'Israël comment vivre dans la présence de Dieu. Comment est-ce qu'on peut vivre dans la présence d'un Dieu saint ? Quelqu'un qui est parfait, une personne, un Dieu qui est parfait, qui est digne, et la sainteté de Dieu, c'est pas seulement qu'il est différent, c'est qu'il agit avec droiture. Les dieux de l'époque, vous aviez Zeus, vous aviez Baal, c'était des dieux capricieux, des dieux qui faisaient ce qu'ils voulaient, qui pouvaient aller détruire quelqu'un s'ils avaient envie, sans manifester aucune raison. Si Dieu punit quelqu'un, ça sera toujours avec une raison. Parce que Dieu est un Dieu saint au niveau moral, ça sera quelque chose de très nouveau pour l'époque. Dieu est un Dieu qui demande notre attitude morale, une attitude d'amour du prochain, de respect pour Dieu et pour sa création. C'est quelque chose de révolutionnaire, qui est tellement révolutionnaire qu'il va être enseigné dans tout le bassin méditerranéen et qu'il va avoir un impact sur un nombre immense de cultures. La culture occidentale moderne, que ce soit les droits de l'homme, le respect de la création, vous savez d'où on tire cela ? On le tire des enseignements de Dieu. Alors, vous avez suivi certains éléments. Par exemple, l'écologie, certaines fois, tire ses enseignements d'ailleurs. Par exemple, de la mythologie nordique. Mais dans ces cas-là, vous vous retrouvez avec la tradition qui a commencé avec Hitler, qui était le premier à avoir fait une loi écologique. Et ce respect pour la création, c'est parce qu'il considérait la création comme un dieu. Mais si vous considérez la création comme un dieu, vous allez retomber dans tous les péchés des dieux de l'époque, ou des choses qu'on considérait comme dieux à l'époque, qui vont être liées à faire des choses comme la prostitution sacrée, le meurtre d'enfants, ce qui étaient des choses pratiquées à l'époque et qui dans certaines cultures est encore pratiquée. Ou encore faire des choses où si on croit que la création est Dieu, si on croit que les espèces sont Dieu, on va faire ce que des gens ont fait au Rwanda, on va tuer des hommes parce qu'ils tuent des gorilles par exemple. On va tuer des personnes parce qu'ils abîment d'autres espèces. Est-ce qu'on peut faire ça ? Dieu dira non. Même s'il veut qu'on protège la création, il ne va pas dire « vous allez tuer des personnes pour enseigner cela ». Parce que le but premier de Dieu, c'est qu'on apprenne à vivre dans sa présence pour respecter sa création, pour respecter notre prochain. Et ça, ça sera l'enseignement qu'il va faire à travers des images concrètes. On va parler maintenant de l'image suivante. D'abord, il va y avoir tout un parvis. Vous voyez ce parvis avec des tentes autour. Ce parvis, normalement, ce sera les prêtres qui vont y rentrer, mais qui vont apporter les sacrifices faits par les personnes. Certains pourront s'approcher, mais ce sera les prêtres qui vont faire les sacrifices. Alors, pour ces sacrifices, il y aura deux éléments à l'extérieur. L'autel des sacrifices et la cuve de purification. Deux lieux clés pour comprendre, deux points clés, comment entrer. Si vous voulez, la relation à Dieu, c'est comme cette progression depuis l'extérieur du tabernacle jusqu'au lieu très saint. Apprendre à entrer en relation. Il y a des gens qui manquent de sagesse au niveau des relations. Ils viennent dans une église ou dans une communauté et tout d'un coup, ils veulent être très amis, très intimes avec tout le monde. Comme si on était super amis et tout. Vous savez quoi ? Une vraie relation se développe avec le temps. Une vraie relation se développe avec le temps. On n'ouvre pas tout de suite, n'importe comment. Vous pouvez regarder dans des endroits concrets où cet apprentissage est en train d'être redécouvert. Un des lieux, vous savez que le groupe de jeunes, ce mercredi, on va regarder un film qui s'appelle « Le Social Network », qui est un film qui représente le début du site Facebook, dans lequel il y a plus de 500 millions de personnes qui y sont. Dans Facebook, ils ont oublié cette règle, qu'il doit y avoir une progression pour arriver à une intimité. Qu'est-ce qui se passe ? Au début, vous arriviez, vous mettiez vos photos, tout le monde pouvait voir vos photos. Hey, le chef, il s'est dit, oh, yaya, j'ai un problème là maintenant parce que non seulement les amis peuvent voir les photos, mais les amis des amis. Ce qui fait qu'on vous dit, est-ce que tu veux être ami ? Vous connaissez à peine quelqu'un et vous dites, ça y est, je suis ami avec lui. Est-ce qu'on est vraiment ami ? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un dans la rue qui vient, qui vous dit, bonjour, je m'appelle John, je veux être ami avec vous ? Ça ne marche pas comme ça. Il y a toute une progression, on a besoin de découvrir qui c'est. Et alors, si on parle du parallèle avec Facebook, Facebook est en train de redécouvrir ça avec tout un ensemble de règles. D'abord, on partageait avec des amis, les amis des amis pouvaient le voir. Maintenant, il y a un verrouillage, on peut partager seulement avec des amis. Et petit à petit, ils sont en train de restructurer les points clés de la relation humaine. Je vais vous dire, dans quelques années, ça serait intéressant qu'on revoie et que je vous montre comment Facebook est en train d'avancer et d'apprendre ce que Dieu enseignait déjà il y a 3200 ans. Comment entrer en relation ? C'est toujours quelque chose de progressif. On apprend. Quand quelqu'un a manqué, vous a fait du mal, vous n'allez pas dire « Oh, je te pardonne, on est amis tout de suite comme ça ». Ça, c'est un enseignement biblique mal compris. Le pardon, c'est dire « Ok Dieu, je pardonne à la personne ». Et si la personne, elle, est prête à faire des étapes, il y aura une réconciliation possible. Mais vous allez voir toutes les étapes. Le pardon, c'est que devant Dieu, on ne tient plus coupable les personnes. Mais pour qu'il y ait réconciliation, il faudra passer toutes ces étapes. Alors là, la relation n'est pas entre deux personnes, n'est pas entre nous et une autre personne physique, c'est d'abord entre nous et Dieu. Et nous allons voir les différentes parties. D'abord, il y avait ce lieu qui représentait la présence de Dieu. Ce lieu était une grande tente, finalement. Aujourd'hui, on a des tentes beaucoup plus grandes que ça. C'était une tente de 15 mètres sur 5 mètres de long. 5 mètres de large et 15 mètres de long. Et dans cette tente, Dieu a enseigné à son peuple d'abord qu'il voulait être avec eux. Il ne voulait pas quelque chose de grandiose, il voulait quelque chose de simple. Il ne dit pas, vous allez me construire un grand temple en haut de la montagne. Il leur dit, je veux habiter dans un tabernacle, dans une petite tente. Parce que Dieu veut montrer à son peuple qu'il est capable de se déplacer avec eux, qu'il n'est pas un Dieu limité à un lieu. C'est pratique ça, hein ? On limite Dieu à un lieu, comme ça on peut faire ce qu'on veut d'un côté, puis quand on a besoin, on vient le voir. Dieu dit à son peuple, je vais me déplacer avec vous. Tout ce tabernacle est un tabernacle mouvant. C'est une tente qu'on déplace, qu'on plante avec des piquets, ou qu'on déplante, qu'on démonte. Et il pouvait la démonter en peu de temps, avec l'ensemble des Lévites. Maintenant, on va voir les différents éléments de ce tabernacle. D'abord, dans la cour. Vous l'avez sur vos petites feuilles, comme ça, après, quand vous rentrez chez vous, si vous voulez, vous pouvez méditer dessus ou vous en rappeler. Ou des prêtres vont amener des sacrifices. Pourquoi des sacrifices ? Le sacrifice n'est pas une technique. Le sacrifice, le but, c'est pas pour les gens de dire « Ok, j'ai fait un péché, un gros péché, mais je suis très riche, donc j'envoie 10 bœufs avec mon esclave et je dis à mon esclave « Amène-les au prêtre, vous allez prier pour moi. » Dieu veut que on amène d'abord le sacrifice nous-mêmes et que ça soit quelque chose de proportionnel à notre richesse. Quelqu'un de pauvre, s'il offre une colombe, ça aura autant de valeur que quelqu'un de riche qui offre un bœuf. Et ce n'est pas la taille du sacrifice que Dieu regarde, c'est l'attitude du cœur. Mais le cœur, Dieu, il aime bien que ça soit du concret. Si on dit « Je suis vraiment désolé, Dieu, pour ce péché », Dieu dit « Montre-moi que tu es désolé. Je veux voir des signes concrets que tu es désolé. Si tu veux vraiment une réconciliation, et quand on parle de réconciliation dans les relations humaines, vous pouvez demander ça. Si quelqu'un vous a crevé un pneu parce qu'il était en colère avec vous et qu'il vous dit « Je te demande pardon », est-ce que vous avez un choix en tant que chrétien pour lui pardonner ou pas ? Non. Déjà avant que la personne demande, vous avez à dire « Seigneur, je ne lui en tiens pas compte. » Ça, c'est le pardon. Est-ce que ça veut dire qu'on est des grands amis ? Vous avez juste dit à la personne « Ok, si tu veux, tu peux maintenant passer les étapes pour renouveler la relation avec moi. Je t'autorise à franchir cette étape. » Pas aller au lieu très saint et redevenir un grand ami avec moi. Je t'autorise à faire la première étape qui va être de montrer que la personne est désolée de manière concrète. Si la personne a crevé votre pneu, comment est-ce qu'elle va montrer qu'elle est désolée ? Elle va être prête à vous aider à regonfler le pneu. Ça, c'est la première étape où refaire le pneu. Si des fois, on peut regonfler le pneu ou d'aider pour quelque chose de similaire. Dans l'Ancien Testament, Dieu disait, si quelqu'un a volé un montant, pour montrer qu'il est désolé pour renouveler sa relation avec moi et avec son prochain, il va devoir ramener combien ? Ce montant, plus un cinquième. C'est une façon de dire qu'il montre qu'il est désolé. Sinon, qu'est-ce que je fais ? Vous avez déjà entendu, je vous ai montré, je pique la Bible de Colline parce que je la trouve très jolie. Puis c'est une bonne traduction en plus. Ah, je m'aperçois que finalement, je crois que Colline s'en est rendu compte. Je suis un hypocrite, je m'en fiche royalement de Colline, mais j'ai pas envie qu'il le sache. Oh, Colline, je suis vraiment désolé. Tiens, je te rends ta Bible. Qu'est-ce que je vais faire ? Prochaine fois qu'il voit pas, je vais essayer de lui revoler sa Bible. Ça m'a coûté quoi, ça, de dire je suis désolé ? Rien du tout. Je vais continuer à le faire. N'oubliez pas que Dieu donne une sagesse. Et pour, par exemple, si je volais la Bible de Colline, et que je me repens vraiment, je vais faire un cadeau, en plus un cadeau rusé. Colline, je te demande pardon, j'ai fait quelque chose qui n'est pas droit, j'aimerais te rendre ta Bible. Et en plus, je me suis dit peut-être que tu accepterais une Bible en français, j'aimerais te donner cette Bible. Juste pour le cours s'il te plaît, mais... Je donne un peu plus. Je montre que la relation avec Colline a de l'importance. Cette expression... c'est de montrer un cran de plus. Parfois, il y a des gens qui confondent pardon et réconciliation. Qu'est-ce qui se passe ? Ils croient que pardonner, c'est donner accès au Saint des Saints. Et on va se faire frapper à nouveau, on va se faire humilier. Non ? Pardonner, c'est dire « j'autorise la personne à pénétrer ici. Seigneur, je ne lui tiens pas compte. Si la personne veut faire le processus de réconciliation, je suis ouvert à ça. » Mais il y aura un processus. N'oubliez jamais cela. Pardonner, c'est pas dire « frappe-moi », c'est dire « si la personne revient et montre une vraie repentance, moi dans mon cœur, j'autoriserai cette personne à faire ce processus et donne-moi ta grâce Seigneur pour pouvoir faire ça ». Donc la première étape, c'est montrer la repentance concrète en offrant un sacrifice. Est-ce que la taille du sacrifice montre la taille du pardon que Dieu va donner ? Ça doit être lié à la richesse de la personne. Il y a des rois, parfois, qui croient que s'ils font une grande cathédrale pour Dieu, ils vont avoir une grande place auprès de Dieu. Vous savez quoi ? Ça ne marche pas comme ça. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Il veut qu'on apprenne les bases de comment on entre en relation avec notre prochain et avec Dieu. Et quand il y a quelque chose qu'on a fait qui n'est pas juste, Dieu dit il y a un chemin. Tout le but du tabernacle, c'est de renouveler une relation qui a été abîmée. Tout le but du tabernacle, c'est la pédagogie de la relation divine qui est la même qu'une pédagogie saine pour les relations humaines. Donc d'abord, à travers le sacrifice, on montre que de manière concrète, on est désolé. Et Dieu, il vous dit, montre-moi que tu es désolé. Je veux du concret, je ne veux pas de la théorie. Il y a des gens, des fois, qui vont venir à Dieu, après qu'ils ont péché, « Oh, je te demande pardon à Dieu. » Au temps de Jésus, il y a des gens qui avaient péché, et ils se disaient, « Ah, c'est une j'ai une technique, je vais venir voir Jean-Baptiste, et je me repens, et puis comme ça, je serai prêt, si le Messie arrive, je vais être sauvé, et ce sera bon. » Qu'est-ce qu'il dit, Jean-Baptiste ? Race de vipère. Ça, il le dit à chaque fois, dans les évangiles de Matthieu et Luc, vous pouvez le lire, c'est frappant. Race de vipère. Vous croyez que vous pouvez fuir la colère à venir quand Dieu jugera vos relations entre vous et votre prochain et votre respect à la création et à moi ? Vous croyez que vous pouvez faire une technique ? Produisez d'abord des fruits dignes de repentance. C'est quoi des fruits dignes de repentance ? C'est montrer qu'on est désolé. De manière concrète, pour renouer nos relations avec notre prochain, renouer notre relation avec Dieu. Première étape, c'est cette repentance fondamentale. Vous ne pouvez pas entrer dans le Saint des Saints, vous ne pouvez pas aller plus loin si vous ne passez pas par cette étape. Vous ne montrez pas que vous êtes désolé. Des fois, il y a des gens, ils ont une technique, ils disent « D'accord, moi j'ai fait ça de mal, je me suis mis en colère, j'ai insulté telle personne. Mais tel autre a fait ça de l'autre côté. » Vous savez quoi ? Dieu, il s'en fiche. Son souci à Dieu, ce n'est pas les autres, c'est vous. Donc arrêtons de dire « Ah oui, je ne paye pas tous mes impôts, je triche, mais je connais quelqu'un, il fait bien pire, les autres, ils font pire. » Ça, c'est une façon de vous cacher et de jouer à je suis borgne, mais l'autre est borgne aussi. Dieu veut qu'on ait nos deux yeux et qu'on apprenne à être pur. Une fois que cette étape est faite de repentance, la deuxième étape, c'est Dieu nous invite à être purifiés. La cuve de purification. Cette cuve de purification, c'est où les prêtres vont se laver les mains après avoir fait les sacrifices. Et vous imaginez qu'après avoir sacrifié des taureaux, des bœufs, il y aura nécessité de se laver. Et certains d'entre nous diront, c'est barbare. Attention, c'est pédagogique pour l'époque. Et Jésus va passer à la pédagogie numéro 2 ensuite pour notre époque. Ces taureaux étaient un symbole du sacrifice que les personnes faisaient pour vraiment montrer leur repentance. Parce que ces bêtes étaient précieuses aux personnes. Elles avaient vécu avec eux. Ce n'étaient pas des bêtes qu'ils ne connaissaient pas. C'est des bêtes, ils étaient bergers, les Israélites. Donc ils vivaient avec ces animaux. Offrir un mouton que vous avez accouché de la maman, que vous avez aidé à sortir, à qui vous avez donné un nom, avec qui vous jouez. Le sacrifier, je peux vous assurer que ce n'était pas un jeu. C'était de montrer vraiment qu'on était sérieux. Et ensuite, ce sera le sacrifice de Jésus-Christ. Et on verra. Le sacrifice de Jésus suit la même dynamique, la même démarche pour s'offrir pour nos péchés, pour nous aider à renouveler la relation avec Dieu. Une fois qu'on avait offert le sacrifice de repentance, qu'on avait purifié nos mains, on entrait, le prêtre pouvait entrer dans le lieu saint. Est-ce que Laurence, tu pourrais passer, ou Yvonne, à la page suivante. Donc vous pouvez me rappeler, c'était quoi les deux éléments en dehors du tabernacle ? Le premier lieu, c'était quoi ? Voilà, pour la repentance. Donc le sacrifice, et le deuxième élément ? Purification. Donc repentance et purification. Ensuite, il y a trois éléments dans le lieu saint. Une fois qu'on avait fait ces étapes, on pouvait entrer dans le lieu saint. Une fois qu'une personne vous a fait du mal, vous a blessé, d'abord, vous, dans votre cœur, vous avez à lui pardonner devant Dieu. Dire à Dieu, je ne suis pas juge. Maintenant, ça, c'est un processus de réconciliation. Si la personne a montré une vraie repentance, si j'ai montré à Colline que j'étais vraiment désolé, que je lui ai rendu sa Bible et que je lui ai montré ma repentance par un cadeau qui avait du sens, ou c'est pas quelque chose qui était pour moi, mais quelque chose qui je croyais pourrait faire plaisir à Colline. Que je me suis purifié, que je me suis détourné finalement de ces attitudes qui n'étaient pas justes. Que j'ai dit, Colline, je me purifie, je ne veux plus vraiment te refaire ça. j'entre dans le lieu saint où il y aura trois éléments. Dans la relation à Dieu, il y a trois éléments clés. On va commencer par cette table des pains de proposition. Table des pains de proposition, c'est là où on amenait 12 pains tous les jours, qui ensuite le soir étaient mangés par les prêtres. C'était des offrandes faites à Dieu. Toute relation a besoin d'échanges. D'échanges d'emails, d'échanges de paroles, d'échanges de cadeaux, d'échanges entre nous. On a besoin de cela. Tout comme avec Dieu, on aura à apprendre à être généreux. Dieu, il a commencé l'échange, c'est facile. Il nous donne déjà l'air pur, il nous donne sa création, il nous donne tout, Dieu, déjà. Donc, c'est à nous d'initier la réponse, de commencer la réponse, de dire « Dieu, je suis reconnaissant pour ce que tu me donnes. » Comment ? La table des pains de proposition. On offrait avec la farine, avec... C'était une partie des offrandes qu'on offrait de ce que l'on faisait, c'est ce que fera le peuple d'Israël même quand il sera en terre promise, offrir une partie de ce qu'on a. C'est ce que nous allons faire avec tous ceux qui sont réguliers, je dirais, à l'église, ou ce qu'ils souhaitent, mais ne vous souciez pas. En général, c'est plus pour les gens réguliers, c'est ce qu'on appelle la dîme. À la fin de ce culte, on aura notre dîme, d'apporter nos offrandes à Dieu, et vraiment, c'est cette partie, la table des pains de proposition. Toute relation véritable, d'amitié, dans laquelle il y a eu réconciliation, il y a plusieurs éléments. Vous pouvez dire que la première étape de réconciliation a été faite. Maintenant, on entre vraiment dans une possibilité d'amitié avec Dieu progressivement. Et cette amitié veut dire que on va offrir à Dieu une partie de ce qu'on a par amitié. On commence cette relation au niveau des choses. Ensuite, on pourrait parler de l'autel de l'encens. L'encens, on le mettait sur l'autel, ça faisait de la fumée. On considérait que c'était une façon de manifester de manière physique nos prières qui montent vers Dieu. Nos prières qui montent vers Dieu. Prier à Dieu n'est pas une option, c'est une nécessité pour notre relation. Est-ce que si je dis que je suis... Colline, on va continuer dans notre relation. Tu m'as pardonné avant, je suis entré par le rideau, je t'ai dit que je me repentais, je t'ai offert un cadeau pour te montrer une vraie repentance. J'ai dit je ne veux plus faire ça, maintenant on commence à être amis. De temps en temps, je t'offre un petit cadeau, je t'invite à manger, tu m'invites, tu me fais un petit cadeau, tu me répares une chaise une fois. Et progressivement, notre relation devient une amitié. Dans cette amitié, si, par exemple, j'écris un petit mot sur le papier, je dis « Colline, je t'invite à manger. » Colline fait comme ça. On va manger ensemble. Je parle à la serveuse, Colline parle à la serveuse, puis on mange ensemble. Est-ce que c'est une vraie relation, ça ? Il y aura besoin de deux choses. Que Colline me parle, qu'on se regarde et que je lui parle. Ça sera l'étape suivante. L'autel pour l'encens, ça va être les prières qui montent à Dieu. Dans notre relation humaine, on va échanger des paroles. On va échanger sous les différents modes de communication. Les emails font partie d'une relation, les coups de fil font partie d'une relation, les regards, tout cela. Mais là, c'est plus au niveau de la prière, vous pouvez dire, qui monte vers Dieu. Et dans une relation, si on est toujours au loin l'un de l'autre, ça ne fonctionne pas. Il faut que on se regarde, qu'on puisse se voir. Et pour se voir, il y a besoin de la lumière. Et dans toute relation, vous pouvez penser qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est nécessaire. La présence de l'Esprit de Dieu, la présence de l'Esprit de Colline, quand je suis avec lui, ma présence... Quand je suis avec lui, des fois, il arrive qu'on discute, mais notre esprit est absent. Par exemple, je parle à Colline, « Ah tiens, j'ai vu quelque chose d'intéressant, mais Colline, il est en train d'écrire. » Ça va bien dans le cas présent, mais c'est juste pour une illustration, hein, tu peux continuer à écrire. Mais s'il est en train d'écrire, son esprit est où ? Est-ce que vous croyez que ça marche, vos prières, si Dieu, il n'est pas là ? Il faut croire que Dieu est là. Et là, c'est pour nous aider à croire que la personne vers qui on va, qui dans ce cas est Dieu, entend et qu'elle est présente. Et cette présence se manifeste à travers ce candélabre, chandelier. on appelle ça une menorah en hébreu, avec 7 branches. Vous savez en quoi il est fait ce chandelier ? Il est fait en or. Et il pesait 45 kilos. 45 kilos. C'était pas un petit truc sur la table. 45 kilos d'or qui n'ont pas été fondus. Ça a été martelé par les deux ouvriers qui s'appelaient Betsalel et Oliab, qui étaient très doués. Parce que pour marteler, ciseler cela, je peux vous assurer, ça ne devait pas être facile. Et c'était une œuvre d'art. Et c'était des petites lampes en forme d'amandes. Les amandes, c'est des fruits qui donnent de l'huile. Et l'amande, finalement, donne de l'huile. Et l'huile représente depuis longtemps dans l'Ancien Testament l'Esprit de Dieu. Et quand on va prier pour que la personne reçoive l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire ? On va loindre d'huile. Jusque dans le Nouveau Testament, il est dit, quand vous priez pour un malade, que vous voulez que l'Esprit de Dieu le touche, qu'est-ce que vous devez faire ? N'hésitez pas à loindre d'huile. Vous pouvez prier sans loindre d'huile, ce n'est pas magique, mais c'est une manifestation concrète de notre foi. Est-ce que ça veut dire que si on a de l'huile, beaucoup d'huile chez nous, on a beaucoup de l'Esprit de Dieu ? Non. C'est des moyens symboliques, pédagogiques. Dieu n'est pas en train de vous dire « je suis un chandelier, je suis une table ». Il est en train de vous dire « je vous enseigne comment les relations fonctionnent ». Je vous enseigne comment on entre en relation. On a besoin de l'esprit de l'autre. On a besoin d'avoir des dons mutuels. C'est la table des pains. On a besoin d'avoir l'esprit de la personne présente. On a besoin de paroles mutuelles, de parler. Vous vous rappelleriez de ça, donc ? Des cadeaux, ça sera la table des pains. Deuxième point, c'est présence de la personne. Vous pouvez interchanger, il n'y a pas d'ordre. Et le troisième point, ça va être parler. Trois points clés. Si on s'échange de l'aide, beaucoup de choses, des paroles, et si on est attentif à ce que l'autre dit, qu'on manifeste de la présence, l'amitié démarre. Et c'est ce que faisaient les prêtres ici. Ils gardaient ce chandelier allumé, amenaient tous les jours des nouveaux pains, pour dire que ce n'est pas seulement de dire on est amis dans le passé, l'amitié se maintient à travers finalement des échanges continus. Ça ne veut pas dire pour nous, l'amitié ça ne veut pas dire tous les jours à tout prix, mais avec Dieu on est invité à une relation continue. Et cette relation continue, finalement ces trois éléments sont nécessaires. Et plus vous allez être amis avec Dieu, plus vous allez pouvoir passer à une autre étape. D'abord, vous voyez, rappelez-moi, quelle était la première étape pour pouvoir entrer dans le tabernacle ? Qu'est-ce que Dieu devait faire, pas Dieu, qu'est-ce que nous devons faire, nous, si pour quelqu'un entre dans le tabernacle de notre relation, de notre vie ? Pour qu'il passe le rideau, qu'est-ce qu'on doit faire, nous ? On doit lui pardonner. On doit lui pardonner d'abord. On pardonne à la personne, comme ça elle peut entrer dans le rideau. Ensuite, qu'est-ce que la personne doit faire pour renouveler une relation qui a été abîmée ? Repentance, quel est le lieu pour la repentance ? L'autel des sacrifices. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire, la prochaine étape ? Cuve de purification. Ensuite, l'amitié redevient possible. Si quelqu'un a été violent avec vous et vous dit « Oh, je te demande pardon, on va redevenir amis comme avant, viens, on fait plein de trucs ensemble. » Est-ce que ce serait sain de dire « Ah oui, j'oublie, j'annule la plainte auprès de la police, on va être amis et tout. » Est-ce que vous faites comme ça dans la vie ? Est-ce que vous voulez que Dieu fasse comme ça ? Il y aura des étapes. Pas parce que Dieu est méchant, mais parce qu'il vous invite à renouveler sa relation avec lui. C'est pour ça qu'on a à se détourner du péché. C'est pour ça qu'on a à être sage dans les relations humaines. Tout comme, je vous le dis, pour moi c'est très intéressant d'observer Facebook, de l'analyser d'un point de vue théologique. De voir où ils sont en train de redécouvrir toutes ces règles, parce que pour l'instant, Facebook, c'est finalement comme si vous aviez une grande tente et vous enlevez tout ça. Et dès qu'on entre dans la tente, on dit « je veux bien être ami avec toi », c'est bon, on peut faire ce qu'on veut, on peut regarder toutes les photos de la personne, on peut dire tout ce qu'on veut. Ça n'est pas sage. Il y a toute une progression qu'il y a à apprendre Et ça m'intéresse de voir comment un site qui a un impact significatif sur la culture moderne est en train de redécouvrir ses bases de la communication, que Dieu avait déjà enseigné depuis longtemps. Et une fois qu'on est amis, est-ce que c'est fini? Si on est amis, Colline et moi, mais qu'il n'y a personne autour, c'est pas encore une amitié qui est très utile. Il va falloir que cette amitié s'ouvre aux autres. Tout comme dans un couple, au début, on va apprendre à être amis, à être unis, hommes et femmes. Mais si ce couple ne s'ouvre pas à d'autres, que ce soit à travers l'accueil d'enfants, que ce soit avec des amis, que ce soit à travers une façon de manifester quelque chose de bon à l'extérieur, ce couple est mort. Ce couple ne porte pas de fruits. Toute relation humaine, si elle est refermée sur elle-même, va s'étouffer. Voilà, if it's focused on itself, it will die, it will suffocate. Elle va s'éteindre parce que c'est la nature que nous avons de transmettre à d'autres. Qu'est-ce qu'on va transmettre à d'autres? Dans ce cas présent, comment entrer en relation avec Dieu? Et pour cela, on va passer à l'étape suivante. Cette étape suivante, c'est d'abord, on va prier pour les autres qui sont séparés de Dieu. On va prier. Si on sait que quelqu'un a finalement une relation brisée, on a deux amis et que les deux ont une relation détruite, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir les aider à se réconcilier. Mais pour cela, il va falloir les enseigner. D'abord, quand on a un ami qui est séparé de Dieu, on va prier. Ça va être, vous voyez les chérubins qui manifestent la présence de Dieu, c'est le Saint des Saints, là où Dieu manifestait sa présence. Et il y avait une colonne de fumée au-dessus de ce lieu. C'était aussi, on appelait en hébreu ce lieu-là, ce couvercle, le caporet, le lieu d'expiation, où une fois par an, le grand prêtre venait intercéder pour le peuple d'Israël. Il venait, et on ne peut pas entrer. Si, par exemple, imaginez que, avec Colline, j'ai tué un de ses enfants dans le passé. D'accord? Que Colline n'est pas chrétien. Et j'entre dans la maison de Colline, qui est en train de nettoyer son fusil parce qu'il revient de la chasse. Et je dis, salut Colline, comment ça va? On va s'amuser ensemble? Qu'est-ce qui va se passer? Ça te prend un coup de fusil. Si vous avez blessé des personnes, si vous avez humilié votre prochain, si vous avez violé quelqu'un, si vous avez fait du mal aux autres, que Dieu a créé, c'est ses enfants. Parce que Dieu étant créateur, quelque part, nous sommes sous une certaine forme tous ses enfants. La question, c'est de devenir des enfants de Dieu qui sont en bonne relation avec Dieu. Pour l'instant, à la base, on est déjà tous créés à travers la création de Dieu, donc on est des enfants de Dieu. Ou plus ou moins distants. Si vous faites du mal à d'autres personnes, à d'autres éléments dans la création, qu'est-ce que vous pensez que Dieu a comme attitude envers vous? Il est content avec vous? Et Dieu devait l'enseigner au grand prêtre de manière très claire. Il lui disait au grand prêtre, ne joue pas avec moi. Ma pédagogie divine, pour qu'elle fonctionne, il faut que tu sois très sérieux. Si tu commences à être léger, à dire, oh, c'est bon, je viens faire mon... J'ai insulté ma femme à la maison, j'ai volé mon voisin, mais maintenant aujourd'hui je dois aller sacrifier pour l'année pour tous les Israélites. Je mets mon joli vêtement, j'y vais. Qu'est-ce que Dieu va dire? Ça ne marche pas comme ça. Et on va voir des éléments clés sur l'habillement du prêtre. Mais le grand prêtre devait intercéder pour les autres. Parce qu'une fois qu'on est en relation d'amitié avec Dieu, Dieu veut qu'on intercède. Et c'est le but du Saint des Saints, d'être un lieu d'où on va puiser la force pour annoncer l'évangile à d'autres, annoncer l'amour de Dieu à d'autres. Comment? D'abord, on va intercéder pour les personnes. Ensuite, il y a trois éléments dedans. Est-ce que vous savez ce qu'il y avait dans cette arche d'alliance, cette sorte de coffre qui faisait 1 mètre sur 2 mètres? Il y avait trois éléments. Le premier, c'était quoi? Les 10 commandements, les tables de la loi, pour enseigner les bases, comment notre relation avec Dieu et comment notre relation avec notre prochain. Toutes les choses à ne pas faire, les bases clés, les points clés. Donc tout ce processus est quelque part résumé dans les 10 commandements et ou intégré. Ensuite, quoi d'autre? il y avait une sorte de petite cruche dans laquelle ils avaient gardé la manne. Pourquoi la manne ? La manne, c'est la nourriture que Dieu avait donnée à son peuple pendant 40 ans pour se rappeler que Dieu est fidèle. Hein ? Oui ? L'arche d'alliance. L'arche, c'était ça ? Arche, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est une sorte de coffre plutôt. C'était précieux, c'était fait en quel bois ? C'était fait en bois d'acacia. Vous connaissez le bois d'acacia ? Je pense qu'Anton, tu connais. Quelle caractéristique ça a, le bois d'acacia ? Hein ? Très dense, très dense. Est-ce que les vers peuvent rentrer dans le bois d'acacia ? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas rentrer dans le bois d'acacia. C'est trop dense. Et c'était un bois qui durait longtemps, recouvert d'or. Donc c'était du bois, tout comme la table, il n'y avait que le chandelier qui était fait en or pur.
Est-ce qu'il n'y a pas une huile naturelle dans le bois d'acacia ?
Peut-être, ça je ne sais pas, Colline. Ça, je ne sais pas. D'accord. On peut en discuter ou tu peux demander à Anton s'il sait. Les trois points, donc deuxième c'était la manne, premièrement l'enseignement de Dieu. Donc le grand prêtre pouvait aussi se rappeler de l'enseignement et qu'il a à enseigner d'autres. Deuxième point, la manne, rappeler aux gens que Dieu est fidèle et que nous sommes appelés à être fidèles à Dieu. Si on est amis, est-ce que je peux dire à Colline, je suis sympa avec toi un jour, puis le lendemain je t'insulte ? Je dois être fidèle, il doit pouvoir me faire confiance Colline si on veut une amitié qui est solide. Et avec Dieu c'est pareil. Dieu veut qu'on lui parle régulièrement, parce qu'il veut, tout comme il nous parle à travers sa création, il veut nous parler même dans la prière, quand on prie. Et ça sera la fidélité. Le troisième point, c'est le bâton d'Aaron. Parce que plusieurs disaient à Aaron, pourquoi est-ce que ce serait toi qui entres là-dedans ? Nous aussi on veut y rentrer. Et Dieu avait dit, bah, tous ceux qui sont des autres tribus qui disent, nous on voudrait y rentrer à la place d'Aaron, vous allez mettre dans un lieu précis votre bâton. Et celui qui fleurira, ça sera celui de la personne que je choisis. Du jour au lendemain, le bâton d'Aaron va fleurir. C'est une façon de montrer l'élection de Dieu, le choix de Dieu. Dieu vous appelle, Dieu nous choisit. Il vous choisit pour quoi faire ? Pour être ami avec lui et pour apprendre aux autres à être ami avec lui. C'est ça le résumé de toute la foi chrétienne. Le but de la foi, c'est quand on traverse le parvis, qu'est-ce qu'on fait ? À l'extérieur ? On demande pardon, on regrette vraiment, on s'humilie, on dit on est désolé pour toutes les choses qui ont abîmé la relation avec Dieu, mais avec d'autres personnes, on peut imaginer aussi. Ensuite, on redéveloppe une relation d'amitié. Après, on veut transmettre cette amitié à d'autres. On veut transmettre cette amitié avec Dieu à d'autres. Vous voyez comment ces trois éléments fonctionnent ensemble ? Laurence ? Ces objets ont été perdus. Vous imaginez que quand Israël a été attaqué par un roi étranger, 45 kilos d'or, c'est quand même intéressant. Donc tous les ustensiles du temple ont été amenés. L'arche d'alliance a disparu après la destruction du temple. On ne sait toujours pas si elle a été détruite ou si elle a été cachée. C'est tous les gens qui aiment bien les trucs secrets et tout, ils se font un plaisir d'imaginer des choses. Si vous faites partie de ces gens-là, amusez-vous, mais ne croyez pas que Dieu est limité à ce petit coffre pour manifester son amour envers vous. On va passer à l'image suivante. Maintenant, quand vous êtes dans la présence de Dieu comme le grand prêtre...
Stéphane,
oui.
Parle-moi avancer. Explique le rideau d'entrée un peu parce que...
Le rideau d'entrée, c'est finalement le tabernacle qui autorise les gens à entrer. Ce rideau, ce n'est pas un mur. Quand vous refusez de pardonner à quelqu'un, c'est comme si vous mettiez un mur. Vous dites, la personne ne peut plus rentrer en relation avec moi. Si elle essaye de rentrer en relation avec moi, ou bien, je ne lui parle pas, je ne la salue pas, etc. Le rideau d'entrée, c'est dire, si la personne veut renouveler la relation avec moi, moi je lui ai pardonné devant Dieu, il y a une option. Elle doit suivre certains principes, et je dirais... Si la personne, par exemple, vous a crevé le pneu et qu'elle dit « Oh, on va être copain à nouveau, je suis désolé. » Il est sain de dire à la personne « Tu sais, je t'ai pardonné, mais ça m'a coûté tant d'argent de refaire ce pneu. » et leur dit « Oh, c'est du passé, ça !» Si la personne vous dit ça, vous lui dites « Écoute, est-ce que tu regrettes vraiment que tu m'aies fait ça ?» Je vais vous dire un truc dur. Si la personne, si quelqu'un est très pauvre et qui n'est pas capable de repayer, n'essayez pas. Mais si la personne a les moyens et que ce n'est pas quelque chose de monstrueux, dites-lui, écoute, si tu es vraiment sincère et que tu veux mon amitié, je vais te demander au moins de participer au prix que j'ai dû payer pour recrever. À vous de décider. Vous pouvez demander le prix complet. Ce n'est pas contraire à la foi chrétienne. C'est fondamentalement suivre l'exemple de ce que vous avez ici. Des fois, vous croyez que le christianisme, c'est on pardonne tout, on laisse tout le monde faire tout ce qu'on veut. Quand vous faites ça, vous ne faites pas mieux que Facebook qui dit « Oh, on dit qu'on est amis et puis on peut voir tout chez les gens. » Qu'est-ce qui se passe? On doit apprendre à remettre des règles. Parce que notre amitié, elle nécessite confiance. Et cela se construit avec le temps. Donc ça va, le rideau? Vous ouvrez à la possibilité que la personne entre vous voir. Et c'est ça le pardon. C'est dire, j'ouvre à la possibilité que la personne renouvelle la relation avec moi. Mais la personne aura des efforts à faire si elle a fait quelque chose qui n'était pas juste. De même, dans beaucoup de relations, quand la relation est cachée, il y a eu des problèmes des deux côtés. Parfois, c'est à vous de demander pardon à la personne et dire que vous regrettez pour la chose. Dans une relation cassée. Peut-être que dans un couple, d'un côté, quelqu'un nous a fait du mal, mais nous aussi, on a fait du mal. Ça marche dans les deux sens. Hein. Ce n'est pas seulement nous, le petit Dieu, qui attendons dans notre lieu saint, lieu très saint, que tous les gens regrettent tous leurs péchés. En général, nous avons fait beaucoup de péchés et ça se compte par jour. Manque de sagesse, manque de respect. Et je vous dirais, apprenez ce processus avec Dieu et apprenez avec votre prochain à dire votre repentance de manière concrète. Et plus vous le ferez avec votre prochain, plus avec Dieu, votre relation va être plus forte. Le vêtement du grand prêtre, quand vous êtes dans le Saint des Saints, vous êtes appelés à être des témoins de l'amour de Dieu. Vous êtes appelés à communiquer les enseignements de Dieu. Vous êtes appelés à manifester sa grâce. Mais il y a plusieurs éléments à ne pas oublier. Premier élément, vous ne venez pas à Dieu sans être passé par la repentance. Si vous avez sauté la repentance, que vous ne vous êtes pas purifié, qu'est-ce qui va se passer? Si le grand prêtre, qui est l'exemple pour tout le peuple de comment entrer en relation à Dieu, lui ne suit plus ses règles, qu'est-ce qui va se passer dans le peuple? C'est catastrophique. Quand je vous enseigne le dimanche, si vous êtes une vingtaine et que je vous dis quelque chose qui est un péché, mon péché est multiplié par 20 parce que j'ai enseigné ce péché à 20 personnes. Si le grand prêtre fait quelque chose qui est un péché et qu'il le fait en représentant plusieurs centaines de milliers de personnes, son péché est multiplié par combien ? Centaines de milliers. Malheureusement, pour une raison pédagogique, pour que Dieu enseigne son peuple, il est obligé de dire au grand prêtre, toi, tu as appris d'abord en devenant prêtre, puis grand prêtre, toutes ces règles. Si à un moment donné, tu ne les respectes pas, je veux te dire une chose, pour toi, c'est la mort. Pour toi, c'est trop grave. Pour toi, si tu fais ça, tu ne peux plus. Je suis obligé d'enseigner au peuple en montrant que dans ton cas, tu es tellement important. Et c'est ce qui se passe si, par exemple, vous êtes ministre des Affaires étrangères et que dans les relations avec les Affaires étrangères, vous faites une petite erreur, toute petite, vous acceptez un don d'un ami qui est, par exemple, au hasard, président d'un État. Alors que vous êtes censé traiter d'État à État et ne pas faire de choses qui sont contraires à ces règles. Et donc d'accepter des cadeaux personnels. Vous n'êtes que des représentants de l'État. Eh bien, si le représentant du gouvernement l'apprend, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Oust! La personne doit sortir. C'est tout petit, vous direz. Oui, mais parce que la personne représente tout un peuple, cette petite cesse redevient immense. C'est ce qui se passe avec le grand prêtre. Les clochettes, c'est pour rappeler au grand prêtre, quand il marche, ça fait des clochettes. Et on attachait une corde à son pied, que ce soit au tabernacle ou bien plus tard dans le temple. Pourquoi? Parce qu'on se disait, si le grand prêtre a oublié ses règles, lui qui est l'exemple de nous, Dieu a le pouvoir de le tuer. il l'a fait à un moment donné avec deux fils d'Aaron qui se sont dit, on va jouer à faire de l'encens et tout, c'est rigolo. Non, Dieu ne peut pas permettre que des personnes qui sont des enseignants centraux détournent les voies de Dieu, parce que c'est détruire ce moyen pédagogique puissant que Dieu avait mis en place. C'est en faire un lieu d'idolâtrie et de perversion. Les enfants d'Élie, par exemple, à un moment donné, ont dit « Donnez les sacrifices, nous on fait ce qu'on veut. » Et ils ont rendu impurs les sacrifices. Dieu a été obligé de tuer ces personnes. C'est pour ça que le grand prêtre avait ses clochettes en bas, pour se rappeler que lui n'a pas le choix. Si il ne respecte pas ces règles qu'il enseigne à tout le peuple d'Israël, ça sera catastrophique pour lui. Ensuite, il y avait deux choses. Il avait des pierres sur son pectoral, sur cet endroit, cette plaque. Il y avait 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. C'était une façon de dire, d'accord, les gens regardent à toi, tu as un superbe habit pour manifester qu'on t'honore et on te respecte. Mais n'oublie pas une chose, tu n'entres pas pour toi-même. En dehors du tabernacle, le grand prêtre se purifiait pour lui-même. Mais à l'intérieur, il était un représentant pour les autres. Il était seulement là pour intercéder pour les autres. Ce n'était pas lui le centre. Et plus vous avancez dans l'apprentissage de l'amour de Dieu, de l'amour de votre prochain, moins vous allez chercher à être le centre dans les relations. Et votre désir, c'est qu'il y ait une communauté qui fonctionne bien, qui fait que quand des personnes sont de mauvais termes, vous allez faire tout ce que vous pouvez pour que les gens se réconcilient. Vous n'êtes plus le centre, les autres sont le centre. À ma petite dimension, en tant que pasteur, je dois apprendre à me préoccuper d'abord des personnes à l'église, comment que ça se passe bien pour vous, dans votre vie, dans la mesure où vous me permettez et que je peux vous encourager à être votre serviteur. À ma petite dimension, toute petite, tout comme le grand prêtre est là pour intercéder. Il n'est pas plus important que les autres. Mais il veut manifester son désir, le désir de Dieu de se réconcilier, parce que Dieu veut être réconcilié avec tout le monde. Et donc il porte les 12 tribus, et sur ces deux épaulettes, il y a deux pierres. Sur chaque pierre, il y a 6 noms de tribus. Donc les 12 pierres, ça représente les 12 tribus. Et encore à nouveau, sur ses épaules. Pour dire que finalement, il doit avoir le bien du peuple dans son cœur. En lui, son désir, c'est pas d'abord d'impressionner les autres, mais le bien des autres. Et ensuite, il veut porter le péché des autres devant Dieu. Il va porter le péché avec ses deux petites pierres devant Dieu le jour des expiations, le jour du grand pardon, comme on dit, tous les ans, pour renouveler la relation avec Dieu, demander pardon à Dieu pour tous les péchés du peuple. Ce grand prêtre était imparfait. Le grand prêtre parfait, vous savez qui c'est ? C'est Jésus-Christ qui a porté non seulement sur ses épaules la croix du péché du peuple, mais qui est mort pour ce péché, pour se donner sa vie par amour pour nous. Pourquoi Dieu a fait comme ça ? Pour exprimer de manière concrète que le péché, c'est du sérieux. Si vous venez et que vous dites pardon, et que votre pardon, vous ne le montrez pas de manière concrète, si je ne rends pas ce que j'ai volé à Colline, ou que je ne vais pas tout ce que je peux pour rendre et donner un peu plus, est-ce que Colline peut croire que ma repentance est juste ? Non. Le problème, c'est que si j'ai fait un péché plus grand, si j'ai tué un des enfants de Colline, est-ce que je peux donner la vie à un enfant à nouveau ? Est-ce que je peux ressusciter quelqu'un ? Ça veut dire que dans l'ancien temps, le temps d'Israël, si vous aviez tué quelqu'un, vous alliez mourir. À travers Jésus-Christ, Jésus dit « Moi, je donne ma vie pour toi. Et quand tu vas entrer par la foi dans mon sacrifice, qui te réconcilie avec Dieu, parce que Jésus est notre grand prêtre, c'est moi qui paye le sacrifice, c'est trop grand, ça tu ne pourras pas le payer. » Notre repentance, on est invité à la voir concrète, mais il y aura un niveau de profondeur auquel on ne peut pas aller. C'est pour ça que Jésus est mort pour nos péchés, pour nous inviter à entrer en relation avec Dieu. Il est notre grand prêtre, celui qui nous permet de pouvoir rentrer jusqu'au sein des saints à nouveau et que nous devenions grand prêtre ou prêtre de Dieu, c'est-à-dire médiateur de la grâce de Dieu pour les autres. Médiateur de la grâce de Dieu pour les autres. Et ça, c'est le désir de Dieu pour chacun d'entre nous, que nous devenions comme un frère de Jésus ou comme une sœur de Jésus, pour que nous puissions exprimer la grâce de Dieu pour les autres. Est-ce que tu pourrais passer à la phase suivante ? Fondamentalement, c'est apprendre à vivre avec Dieu. En même temps que vous apprenez à vivre avec Dieu, vous apprenez la sagesse de la relation. Dieu est un Dieu de relation. Dieu est un Dieu d'amour et d'amitié. Son but, quand Jésus résume ce que Dieu veut, il le dit, c'est pas compliqué. Ce que Dieu veut, c'est qu'on l'aime et qu'on aime notre prochain. Vous savez quoi ? Il y a des gens, ils ont dit, bon ben, dans les droits de l'homme, on peut enlever une partie, on n'a pas besoin d'aimer Dieu, on va demander aux gens juste d'aimer leur prochain. Qu'est-ce qu'a fait l'humanité pendant 2 siècles avec la création ? On l'utilise autant qu'on peut et on la détruit autant qu'on peut. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de crainte de Dieu. Ah, on va faire des lois pour qu'on interdise de jeter les ordures à tel endroit ? D'accord, les gens vont suivre les lois. Mais cet amour pour la création, je vous dirais, l'étape la plus simple pour la vivre, c'est à travers l'amour pour Dieu. Et en apprenant à aimer Dieu, entrer en relation avec lui, vous apprenez la sagesse de la relation humaine avec votre prochain. Alors que nous finissons cette prédication, j'aimerais vous poser une question. Où est-ce que vous êtes ? Est-ce que vous avez demandé pardon à Dieu pour vos péchés ? Est-ce que vous... Dieu vous invite, vous donne la possibilité, paradoxalement, Dieu vous donne la possibilité d'être pardonné, mais d'être réconcilié. Mais cette réconciliation, il y aura besoin de plusieurs étapes. Il va falloir montrer votre repentance, vouloir être purifié, ça voudra dire aussi ne plus vouloir faire ces choses qui ont été un manque de respect envers Dieu. Ça voudra dire, et en votre prochain, ça voudra dire, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur déjà, c'est les 3 éléments, c'est quoi ? La table, c'est pourquoi ? Cette table, on mettait les pains dessus, c'est pourquoi ? Les offrandes. Et on se rappellera de ça à travers la dîme. Quel autre élément ? Voilà, l'autel pour l'encens, ça représente quoi ? Les prières, la parole, on dialogue. 3e élément ? Chandelier. Vous pourriez dire le chandelier de la présence de Dieu. La lumière, Jésus dit, je suis la lumière du monde, et la lumière éclaire nos ténèbres. La présence. Et ensuite, à l'intérieur du Saint des Saints, on avait quoi pour entrer ensuite ?
La marche de l'Alliance.
Qu'est-ce qu'il y avait dans l'Arche d'Alliance ? Les 10 commandements, les 2 tables de la loi. La manne.
Et le bâton d'Aaron.
Voilà. Est-ce que vous pourriez vous rappeler de ces différents éléments ? 2 à l'extérieur. Vous pouvez penser 3 avec le rideau. Le rideau, l'autel et la cuve. Ensuite, vous pouvez penser à la table, le chandelier et l'autel pour l'encens. Et après, il y a l'arche d'alliance. Un petit détail que je vais vous mentionner, je ne parlerai pas de ce rideau, je vais vous parler de ce rideau-là. Ce rideau-là, il n'y avait que le grand prêtre qui pouvait y rentrer une fois par an. Quand Jésus est mort sur la croix, lui, notre grand prêtre, vous savez ce qui s'est passé ? Ce rideau entre le lieu saint et le Saint des Saints s'est déchiré de haut en bas. C'était une façon de dire, pour ceux qui veulent entrer dans l'amitié avec Dieu, Dieu va se révéler complètement. Maintenant, ça ne sera plus seulement pour des personnes spécifiques, ça sera pour tous ceux qui veulent entrer en relation avec Dieu. Vous pouvez aller à une communion avec Dieu que seulement le grand prêtre pouvait espérer à l'époque, que seulement Moïse pouvait espérer à l'époque. Chacun d'entre vous, si vous le désirez, il y a une relation complète avec Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu ne veut pas une société avec des rois, avec des nobles. Il veut une société où tout le monde a accès à lui. Il veut une société où tout le monde se respecte mutuellement et où il y a une unité dans le peuple de Dieu. J'aimerais finir par une question. Vous pourrez appliquer à vos relations avec des amis ou à des gens que vous connaissez ce processus. Je vous invite à y méditer. Quand il y a une relation qui est abîmée, si c'est de votre part, comment faire pour renouveler cette relation ? Si c'est la part de l'autre, comment ? Qu'est-ce que vous pouvez accepter et qu'est-ce qu'il est bon de ne pas accepter ? Comment ouvrir la porte à ce renouvellement de, cette relation. Mais pour l'instant, j'aimerais vous parler, est-ce que vous avez la foi que Dieu est bon ? Si vous avez la foi que Dieu est bon, que Dieu est un Dieu d'amour, qui enseigne à son peuple à aimer, qui vous enseigne et vous invite à l'amour, j'aimerais vous poser la question. Est-ce que vous avez passé cette étape ? Est-ce que vous avez montré une repentance véritable ? Quand vous disiez, par exemple, des paroles dures, quand vous étiez, par exemple, imaginons que je me mette en colère envers ma femme, comment est-ce que je vais montrer, et que je dis des paroles dures, comment je vais montrer ma repentance à ma femme par rapport à ça ? Oh Sandra, je suis désolé, je t'ai dit des choses pas gentilles, je te demande de me pardonner. Dieu ? Le faire, comment je vais faire ma repentance ? Offrir des fleurs. Je vais soit offrir des fleurs, soit je vais dire des paroles gentilles. Essayer de répondre au même niveau si possible. Si j'ai eu des paroles dures et méchantes, il faut que j'apprenne à louer ma femme, à lui dire des paroles gentilles, à lui dire des paroles d'appréciation. Tant que vous ne ferez pas cet aspect-là, il n'y aura pas vraie repentance. Et ne croyez pas que Dieu va être content quand vous direz « Oh, je suis désolé Seigneur ». S'il y a quelque chose qui ne va pas dans vos vies, amenez votre désir de renouveler. Et j'aurai, si je dis des paroles dures à ma femme, à renouveler cette relation avec la repentance. Et dire « Je ne veux plus faire cela. Je me purifie, je me lave à travers cette repentance et mon attitude de cela. » Donc avec Dieu, est-ce que vous avez manifesté votre repentance des choses qui ne sont pas à son honneur ? Avez-vous exprimé votre désir d'être purifié de tout cela ? Avez-vous appris à lui offrir, que ce soit à travers la dîme, à travers différentes façons, à offrir à Dieu votre vie ? Ça peut être offrir votre temps aussi, offrir des choses qui sont importantes par amour pour le prochain et pour Dieu, parce que l'amour du prochain fait partie aussi de cela. Est-ce que vous avez appris à vivre dans la lumière de Dieu ? Est-ce que vous avez appris à prier avec Dieu ? Est-ce que vous êtes arrivé au stade où non seulement vous avez une amitié avec Dieu, mais vous apprenez à prier pour les autres, à enseigner aux autres, à entrer en relation avec Dieu, comme le grand prêtre ? Où est-ce que vous en êtes dans votre relation avec Dieu ? S'il n'y a pas de relation, je vous invite à méditer sur la profonde sagesse de cette pédagogie divine. Et à méditer à, si ce Dieu est un Dieu si extraordinairement bon, comment entrer en relation avec lui ? À quelle étape est-ce que vous êtes ? Est-ce que vous voulez passer à l'étape suivante ? C'est mon encouragement pour chacun de vous. La question que vous allez avoir, alors que nous prenons une minute ou deux de prière, c'est où est-ce que vous en êtes dans votre progression avec Dieu ? Où est-ce que vous en êtes dans votre progression avec Dieu ? Est-ce que vous êtes prêt d'aller jusqu'au bout ? Et rappelez-vous, la relation avec Dieu a des étapes. Et si vous voulez aller là, mais que vous n'êtes pas passé par là, la sagesse, c'est de commencer par là. Prions ensemble et méditons par rapport à ces enseignements et comment vivre avec Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour les enseignements incroyables de ton Père Céleste. Merci parce qu'il y a une pédagogie divine d'une profonde sagesse. Tu n'es pas un Dieu compliqué, tu es un Dieu qui veut être simple. Même si à travers les changements de culture, certains textes sont devenus compliqués. Pour toutes les personnes qui lisent ces 4 chapitres par jour, que j'ai encouragé les personnes à le faire, et que ceux qui ne le fassent pas, Seigneur, tu puisses les encourager à lire, en particulier les textes d'Exode, où on va avoir ces enseignements par rapport à ces différents ustensiles, parties du tabernacle, pendant cette semaine et la semaine prochaine. Que tu bénisses mes frères et sœurs d'une méditation sur ces enseignements. Et dès maintenant, je te prie, pendant les 2 minutes qui viennent, de toucher chacun de mes frères et sœurs ici présents, qu'ils puissent discerner où ils en sont dans la relation avec toi, qu'ils puissent avancer, qu'ils puissent progresser pour la joie d'entrer au cœur de ton amour, au lieu très saint, au sein des saints, pour annoncer ton amour vrai à ce monde. Car ce que tu veux, Seigneur, c'est pas qu'on ait des petits groupes gentils de chrétiens qui se réunissent le dimanche, même si c'est une étape. Ce que tu veux, c'est que ton amour rayonne dans ce monde, qu'un amour vrai pour ta création, pour toi, pour ton peuple, pour toute l'humanité, et tout ce qui existe dans ce monde se manifeste. Un amour qui invite à la pureté, à la sainteté, au respect, à la paix. Seigneur, montre-nous en cette minute ou deux où est-ce que nous sommes. Enseigne-nous afin que nous puissions, par ta grâce, avancer et que nous puissions grandir dans ce désir d'avancer, Seigneur. Nous t'ouvrons ces deux minutes à toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu très saint. Montre-nous où on est et guide-nous vers la prochaine étape, Seigneur, maintenant. Amen. Merci Seigneur de nous enseigner. Merci de nous aider à méditer sur ton amour et ta sainteté. Amen. J'aimerais rajouter un élément qui va être important pour vous dans votre foi. Vous auriez pu me dire, si ça c'est le rideau du pardon, ça veut dire que finalement Dieu nous a déjà pardonné, puisque le rideau est ouvert. Non. Ce rideau, c'est le rideau du pardon dans vos vies parce que vous avez péché dans le passé. Vous devez laisser accès et vous devez pardonner pour que vous-même vous puissiez avancer. Pour Dieu, quelque part, les trois rideaux vont être trois étapes du pardon parce que lui, étant un Dieu parfaitement saint, lui n'a pas besoin de pardonner parce que lui, il n'a pas besoin d'être pardonné. Chacun d'entre nous ici présents, nous avons besoin de pardonner pour pouvoir entrer dans le lieu saint, dans le tabernacle. Nous avons besoin de pardonner. Nous avons besoin de dire Seigneur, pour que moi je fasse ce processus, je dois accepter que les autres puissent faire ce processus, de laisser le rideau ouvert. Mais pour Dieu, le pardon va se passer ici, quand on se repent et Dieu nous pardonne pour qu'on puisse entrer progressivement dans la communion avec Dieu. Donc avec Dieu, il y aura. Vous ne pouvez pas avoir le pardon de Dieu sans repentance. Si vous voulez le pardon de Dieu avant, ça serait considéré que Dieu est comme un être humain qui lui-même a péché dans le passé. Vous voyez la différence ? C'est la seule petite différence. Pour vous, le tabernacle de votre cœur, de votre vie, si vous voulez être à l'intérieur avec Dieu, vous êtes obligé de laisser la porte ouverte pour d'autres. Vous ne pouvez pas la fermer. Sinon, si vous la fermez, Dieu ne peut pas vous accueillir parce que vous n'acceptez pas ses règles de son amour. Vous lui dites, moi je pardonne pas, mais toi tu dois me pardonner. Ça ne marche pas. Vous devez, même si, comme je vous l'ai expliqué, il y a toute cette sagesse, et rappelez-vous quand quelqu'un vous a fait du mal, particulièrement si vous n'avez rien fait de mal de votre côté, il y aura des étapes de repentance véritables à attendre avant une vraie réconciliation. C'est de la sagesse spirituelle que Dieu vous donnera, il faut prier suivant les situations.